15 Français ont reçu le prix Nobel de littérature depuis sa création.
Mais on est allé mettre tout le maître.
Il va essayer de transformer sa propre réalisation.
Essai !
Magnifique coup de pied par-dessus la défense.
Bon, vous avez compris, je ne vais pas vous parler du rugby. De toute façon, si je parlais de rugby, je parlerais de la défaite au dernier moment de Montpellier contre Exeter hier. Et donc, comme j'ai envie plutôt de vous parler de choses plus réjouissantes, je vais vous parler d'un nouvel essai. Un essai écrit par quelqu'un que j'aime beaucoup, un utopiste anglais du 19e siècle qui s'appelle William Morris et qui, lors de 3 conférences, a développé un thème qui s'appelle « Comment nous vivons ?» Comment nous pourrions vivre. William Morris, c'est quelqu'un donc, qui a vécu dans la seconde moitié du 19e siècle essentiellement et qui a connu des tas de carrières successives. C'est un utopiste. Il est peintre, poète, tisserand, traducteur, décorateur, romancier, éditeur, imprimeur. Il est mécène. C'est lui qui va, par exemple, inventer les papiers peints. Au 19e siècle, il va être un mécène pour un mouvement des pré-raphaélites qui vont donner l'art nouveau un peu plus tard. Et donc, il sillonne l'Angleterre. Hein. Il s'engage auprès des socialistes anglais. Il n'est pas marxiste, mais on sait qu'il a lu Le Capital. Et il va donner une série de conférences. Et ce texte dont je parle aujourd'hui, c'est la retransmission de 3 de ses conférences. Donc, il va en Écosse, en Irlande. Il a des auditoires très différents d'artistes ou d'ouvriers. Donc ce livre réunit 3 de ses conférences. Il examine le système économique de son temps, démontre avec ferveur ce que ce système a de déshumanisant. Il s'y interroge sur les arts décoratifs et sur leur importance dans la vie quotidienne. Et donc dans ces pages, William Morris affirme ses préceptes favoris. Aucun objet chez soi qui ne soit beau ou utile. Aucun travail qui ne soit une joie à accomplir. Rien de plus important que la beauté, l'amitié et la solidarité. C'est un petit peu la ligne de force de sa morale ou de sa fonction. Il a écrit un livre qui était plus célèbre que ses conférences, qui s'appelle « Les Nouvelles de nulle part », où il imagine un monde absolument merveilleux, un monde utopique où l'argent n'a plus cours et où les gens n'ont de relation qu'en fonction de l'utilité qu'ils peuvent avoir les uns pour les autres. Et donc, je voudrais vous lire un petit extrait de ce livre, parce qu'il résume assez bien sa pensée. William Morris, il faut le rappeler, a été contre le système industriel, parce qu'il pensait qu'effectivement, c'était générateur de pollution. C'est un des premiers écologistes. Il est contre le système colonial anglais, notamment, parce qu'il dit que les industriels veulent être complètement libres en Angleterre et réclament de l'État le contrôle du reste du monde pour les aider à se développer. Et donc, il est effectivement déjà, à la fin du 19e siècle, un anticolonialiste. Alors, je vous lis cet extrait qui me semble très, évocateur hein, de sa pensée. Il dit « Pour la plupart des gens, le mot de révolution que nous autres socialistes sommes si souvent obligés d'employer évoque d'affreuses images. Mais nous ne voulons pas nécessairement dire par ce mot un changement qui s'accompagne d'émeutes et de violences de toutes sortes. » Et encore moins un changement prémédité qui s'accomplirait sans l'assentiment de l'opinion publique et serait le fait d'un groupe d'hommes ayant réussi, d'une manière ou d'une autre, à s'emparer provisionnellement du pouvoir exécutif. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Nous employons plutôt ce terme de révolution dans son sens étymologique, de changement touchant les fondements de la société. Les gens ont peur à l'idée d'un changement aussi profond et nous supplient d'employer plutôt le mot de réforme. Tiens, là aussi, ça nous rappelle quelque chose. Pour nous, autres socialistes, cependant, réforme n'a pas du tout le même sens que celui de révolution. Il ne me paraît donc pas convenir, quels que soient les projets qui se dissimulent derrière cette inoffensive façade. Gardons-nous bien d'utiliser tout autre mot, puisque le nôtre désigne un changement qui touche les fondements de la société. Il peut faire peur aux gens, mais au moins il les avertit qu'un danger réel existe et que cela ne leur conjurera pas de ne pas y prêter attention. Nous inspirons peut-être du courage à quelques-uns, nous connaîtrons aussi l'espérance et non la peur. L'espérance et la peur, ces deux grandes passions, dominent toute l'espèce humaine et tout révolutionnaire a forcément affaire à elles. Notre travail, c'est de donner espoir aux opprimés, qui sont une multitude, et de faire trembler les oppresseurs, qui sont une minorité. Ça me rappelle le livre de Hessel. Si nous y parvenions, si les foules se mettaient à espérer, cet espoir suffirait à faire trembler ces quelques hommes. Mais nous ne tenons guère à les terroriser. Nous ne voulons pas venger les pauvres, nous voulons leur bonheur. D'ailleurs, comment se venger de façon adéquate de tous ces millénaires de souffrances ?